J'ai fait mes examens, je fume vraiment comme un sapeur-pompier. C'est un moyen
c'est
de...
Oui, c'est une habitude, et puis après c'est très difficile de s'en défaire. Ouais. Moi je dois pendant plus de 2 ans, je fume des gouloirs justement, 1,5 paquet, 2 par jour.
Ouais.
Après c'est très...
Oui, moi j'avais commencé, j'avais dit bon, de toute façon 10 cigarettes dans la journée ça va.
Oui.
Et on se limite à ou 10 cigarettes, non j'avais commencé d'abord par 10 cigarettes dans la semaine. Oui. 10 cigarettes la semaine, c'est pas beaucoup.
Oui, bien sûr.
Puis 20 cigarettes, 2 paquets, 3 paquets,
oui.
1 paquet par jour.
Oui, c'est ça,
finalement.
C'est... Et puis on se trouve entraîné.
Oui, oui,
ça y
et
fait
si,
beaucoup.
Si, enfin, quand je lis.
Oui.
Et s'il y a des personnes avec qui je discute, après un
oui.
repas ou
dans
le train,
parler automatiquement.
Oui.
Oui.
Et on se retrouve avec une cigarette au lait, au fond même.
Sans s'en apercevoir.
Non, c'est ça. Bon, voilà. Je voudrais savoir d'abord, madame, depuis combien de temps vous habitez à Orient?
Depuis l'âge de... Attendez, je suis arrivée à 5 ans. Depuis 46.
Depuis 46. Et qu'est-ce qui vous a amené à vivre à Orléans enfin,
mais c'est mes parents parce que nous habitions en Tunisie et puis mon père était militaire et il était originaire d'Orléans. Il est venu après la guerre retrouver sa mère. Son père était décédé, alors il est revenu ici.
Oui, oui, oui.
Alors, bien sûr, nous l'avons suivi.
Oui, bien sûr. Oui. Et enfin, vous habitez à Orléans depuis l'âge de 5 ans.
Oui.
Est-ce que vous vous plaisez à Orléans?
Oui, enfin, moi personnellement, non, je préférais retourner dans le midi.
Oui, oui.
Mmh. Aller dans le midi, ça.
Mmh. Et
enfin, pour... je ne me déplais pas, Léon. Mmh.
Pourquoi est-ce que vous préférez
le midi, bon, je trouve que c'est plus vivant. Enfin, puis le temps surtout.
Oui, oui.
Il fait plus beau.
Oui.
C'est meilleur.
Mais l'hiver, il ne fait pas plus froid, par exemple.
Ici, en Léon?
Non.
Dans le midi? Oh non.
Non, il fait un temps si doux.
Oh non, il fait nettement plus doux que par ici. Enfin quoi, ici, c'est quand même une région privilégiée hein, pour ça. Mais dans le midi, il fait quand même meilleur.
Et est-ce que vous comptez à rester à Orléans?
Ça dépendra tellement de choses.
Oui, oui.
Je ne sais pas du tout.
Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous faites comme travail.
Bien, ça s'appelle le liquidateur. Je travaille dans une caisse de chômage.
Ah oui.
Et j'étudie les dossiers de chômeurs pour savoir si, bien sûr, nous avons un règlement et savoir s'ils ont le droit ou non à une allocation de chômage. Dans cette caisse de chômage, c'est important, c'est une caisse privée. C'est pas du tout de l'État ni rien. C'est privé.
Et ça dépend d'une usine ou de...
Non, ça a été créé, c'est tout à fait privé, ça a été créé par les syndicats. Les syndicats patronaux, les syndicats ouvriers. Ça fait 10 ans que ça existe, j'y travaille depuis le début. Et c'est une cotisation qui est retirée sur le salaire des ouvriers. Et les patrons payent aussi un peu plus. Alors ça n'intéresse pour l'instant que l'industrie et le commerce.
Et c'est pour la région d'Orléans seulement ou c'est pour toute la France?
Non, il y a, ça s'appelle la CEDIC, notre organisme, c'est l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. Il y en a 52 des CEDIC. Alors nous nous occupons de 5 départements, les 5 départements autour d'Orléans. Enfin, il y a le Loiret, nous avons le Cher, l'Inde, le Loiret-Cher et la Nièvre.
La Nièvre. Et en quoi est-ce que ça consiste? C'est quoi au juste? Enfin, qu'est-ce que vous revoyez les dossiers de...
Mais quand un chômeur... C'est-à-dire, nous prenons les gens quand un patron ne veut plus d'un employé, le licencie. Alors nous avons un formulaire, nous pouvons remplir par l'intéressé. Quand son employeur met sa raison sociale, combien de temps l'intéressé a travaillé, pour quel motif il est renvoyé, s'il est renvoyé ou s'il est parti volontairement, etc. Et puis les salaires. S'il nous faut les 3 derniers mois de salaire, c'est d'après ces 3 derniers mois que nous calculons l'allocation qui lui sera attribuée par jour. Il y a certaines normes, etc., quoi, bien sûr.
Et alors, c'est, par exemple, quand il travaille, alors il fait une cotisation à cette organisation
toute sa vie d'employé, d'ouvrier.
Et alors, s'il est renvoyé ou s'il ne quitte son travail, il a donc il a le salaire ou il a...
Non, il a 35% de son salaire.
35% de son salaire.
Oui, 35%.
qui lui permet quand même de vivre.
Oui, de vivre, enfin de rechercher un peu quelque chose. Oui.
Juste
c'est ça, oui. C'est une assurance chômage, comme une assurance vie, etc.
Et est-ce que vous voulez bien me décrire une journée de travail?
Oui, depuis le matin.
Oui.
Eh bien, écoutez, je me lève à 6h15 le matin, lorsque j'ai un bébé. Alors, bien sûr, je fais ma toilette, et puis je déjeune, j'arrange un peu la maison. Et puis à 7h, je réveille mon mari et mon fils. Alors, jusqu'à 7h30, 8h20, je m'occupe de mon fils, le baigner, lui donner à manger. Je prépare un peu de cuisine, le temps de faire mon lit. Et puis à 8h, nous partons, tous les trois. Alors, j'ai la chance de donner mon fils à garder chez mes parents qui habitent ici dans l'immeuble et ma sœur. Alors, ma sœur habite au 11e étage et c'est elle qui me le garde. Quand je lui descends à 8h du matin, je m'en vais travailler parce que je commence à 8h30, jusqu'à midi moins 10. Midi moins 10, nous sortons. Alors, je fais mes courses dans un grand magasin, un magasin où il y a tout, l'épicerie, les vêtements, enfin tout. Mon mari vient me chercher en voiture. Et puis, à midi et demi, nous sommes là. Alors, nous mangeons en vitesse, la vaisselle. Et à 1h30, nous repartons en voiture. Mon mari me ramène aussi presque jusqu'à mon bureau. Et puis, je finis de travailler. Nous commençons à 2h moins 10. Enfin, midi moins 10, 2h moins 10. Nous, à 6h30, je finis de travailler. Alors, mon mari vient encore me chercher en voiture parce qu'il finit à 6h. Et puis, nous faisons une ou deux courses si nous avons quelque chose à faire. Et puis, à 7h, je viens reprendre mon fils pour lui donner à manger, le mettre au lit.
Voilà. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui compte le plus pour vous dans votre travail?
Dans mon travail, oui, c'est un... Enfin, qui compte comment vous voulez...
Qui compte vraiment ça... votre travail qui... Est-ce qu'il y a quelque chose, une partie de votre travail, par exemple, qui vraiment... à laquelle vous attachez beaucoup d'importance ou par laquelle vous êtes passionné ou...
Oui, j'ai un travail, c'est un travail social dans le fond. Il faut étudier les cas. Bien sûr, il y a un règlement à appliquer, c'est très strict. Il faut voir aussi, il faut essayer de voir la personnalité du chômeur à travers son dossier. Parce que nous ne voyons pas très rarement les gens, bien sûr. Nous avons 5 départements. Alors ceux d'Orléans, nous les voyons quelques fois, mais c'est très rare parce que c'est une personne qui les reçoit au guichet. Nous ne les voyons pas. Bon, c'est un travail, si ça m'intéresse beaucoup parce que c'est quand même déjà d'un certain niveau intellectuel.
Oui.
Puis ça c'est un besoin pour moi de continuer à travailler justement pour ça.
Oui, oui. Et quand vous êtes dans votre bureau, vous revoyez un dossier de l'ouvrier, c'est enfin un dossier de chômeur, c'est. Un formulaire que vous revoyez et d'après, il faut qu'il y joigne quelle pièce à son dossier.
Rien, c'est ce formulaire qui doit être rempli par lui et par son employeur, c'est tout. Quelquefois, bien sûr, ils nous joignent des pièces, mais dont nous n'avons pas besoin, une carte d'identité, un livret militaire, alors on voit la photo de l'intéressé ou n'importe. Voyons, nous sommes enfin 4 à faire le même travail que moi et trouvons que des fois, en ayant la photo de la personne, ça nous... C'est mauvais aussi parce qu'on peut essayer de... On a un petit côté sentimental des fois en voyant une photo.
Oui, c'est ça. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous déplaît dans votre travail?
Bah oui, parce que des fois, vous voyez, pour avoir droit par exemple à la question de chômage, un monsieur qui a été licencié et qui ne peut justifier par exemple que de 89 jours de travail alors que notre règlement dit 90, s'il n'en a 89, nous ne le prenons pas. Alors oui, c'est le côté insocial. C'est ça. Des fois, il y a des gens qui ont vraiment des situations vraiment déplorables. Là, il y en a, vous savez, c'est vraiment malheureux et tout, mais on ne peut rien faire pour eux. Alors, on trouve ça un peu bête.
C'est ça.
C'est très, très difficile.
Et le côté qui vous plaît, c'est le côté social
Oui, je ne sais pas tellement de social encore, mais c'est surtout le côté, c'est un règlement qui change très souvent. C'est assez complexe, vous voyez, pour faire le travail que je fais, il faut au moins 2 ans pour être vraiment formé. C'est presque 2 ans d'études.
Oui.
C'est ce côté d'études permanent qui me plaît.
Et si vous n'étiez pas... si vous ne faisiez pas le métier que vous faites, c'est quel nom
Liquidateur, on dit.
Liquidateur, oui. Si vous n'étiez pas liquidateur, qu'est-ce que vous aimeriez faire?
J'aurais voulu être infirmière.
Infirmière?
Oui.
Pourquoi?
Peut-être un peu besoin de se dévouer pour les autres, c'est tout.
Et de plus en plus de femmes mariées travaillent aujourd'hui.
Oui.
Ben vous, personnellement, est-ce que vous êtes pour ou contre?
Ah, moi, je suis pour.
Oui, et pourquoi, pourquoi?
Oh, ben, c'est une indépendance pécuniaire, d'abord. Et puis, vous voyez, moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 18 ans. Et chez moi, j'aime beaucoup ma maison. Je suis une femme d'intérieur, j'aime bien nettoyer tout. Mais rester tout le temps, je m'ennuie.
Oui.
Je trouve qu'au point de vue intellectuel, toujours, même en lisant et tout, non, c'est pas ça.
C'est
mon point de vue.
Oui, oui, bien sûr, oui. C'est... Mais je crois que, qu'en France, la question des femmes mariées qui travaillent est beaucoup plus comment, actuelle qu'en Angleterre. En Angleterre, je crois qu'on a accepté. Et on est plus orienté vers peut-être
la femme au foyer, oui.
Non, vers la femme
maintenant, oui, pour la... Ah, oui, d'accord, oui.
Mais que en France, ça n'est pas encore établi. Je ne sais pas si j'ai raison.
Oui, je comprends. Mais voyez, en France, c'est bizarre parce que les jeunes, par exemple, les jeunes filles travaillent, commencent à travailler 18, 20 ans après la fin de leurs études. En principe, c'est 18 ans. Et elles travaillent jusqu'à... Elles se marient et dès qu'elles ont leur premier enfant, bien souvent, elles s'arrêtent de travailler. Et elles reprennent quand les enfants vont à l'école, qui sont un peu élevés. Alors là, c'est très ennuyeux. Les femmes, après, reprennent vers 35 ans. Et c'est quand elles ont travaillé avant, quand elles reviennent, c'est plus du tout les mêmes méthodes de travail. Elles ont beaucoup de mal à s'adapter à nouveau. C'est-à-dire que même si elles avaient une place pas trop mal quand elles ont quitté, quand elles reprennent, elles sont dépassées, un employeur lui donnera une place moins importante.
Oui, c'est ça.
Ça y fait beaucoup, ça.
Oui, c'est pareil.
Alors, bien sûr, il y a beaucoup de femmes aussi en France qui travaillent. Les femmes cherchent beaucoup à s'orienter, le travail à mi-temps. Alors, c'est pour avoir un petit apport d'argent pour elles, quand le mari a déjà une situation assez.
Oui, mais
il y a beaucoup de femmes. Vous savez, enfin, moi, quand je fais un travail de bureau, c'est assez privilégié. Il y a beaucoup de femmes, je ne sais pas si vous en avez interviewé, qui travaillent en usine. C'est vraiment dur aussi. Ça, c'est...
Oui, moi, j'ai travaillé dans une usine en Angleterre pendant l'été, pendant un mois.
Ah oui, c'est ça.
On commençait à 8h moins le quart, on avait 10 minutes le matin, on avait une demi-heure à midi, 10 minutes l'après-midi, on terminait à je ne sais pas quelle heure, 6h.
Mais encore 8h moins le quart, vous voyez, si les femmes qui travaillent en usine, elles commencent à 7h, 7h30, alors si elles ont des enfants, c'est pareil.
Oui, c'est ça. C'est, travailler dans l'usine, ça n'est pas drôle.
Non, c'est pas drôle du tout.
Et qu'est-ce que vous faites de votre temps libre?
Mais j'en ai peu. Dans mon temps libre, vous voyez, là, je suis libre, j'étais en train de repasser. J'ai fini parce que je m'organise de façon la semaine, la vaisselle, tout ça, mais le soir à 9h, je lis, ou mon mari nous regarde la télévision ou n'importe. Mais à 9h, c'est fini, je ne fais plus rien. Et le dimanche, bien, nous partons par la campagne, nous promener. Alors, bien sûr, maintenant, nous avons le petit, nous avons beaucoup moins au cinéma, mais c'est pour quelqu'un de le cas. Autrement, nous allions au cinéma, enfin, avec un enfant, on n'est plus.
Et comment est-ce que vous avez passé dimanche dernier? Est-ce que vous pourriez me...
Dimanche, il a plu, alors nous sommes restés là. Oui, nous sommes restés là, nous sommes sortis un petit peu, on voulait promener notre bébé, et puis il a plu encore. Nous sommes sortis 3/4 d'heure à peu près. Pendant ce mois-là, moi j'ai vu un livre entier, puis il y avait la télé qui marchait, mais la mettait surtout comme Bruxelles. Mais autrement, vraiment, il faut qu'ils pleuvent pour que nous restions là, nous partons dans la campagne, marcher dans les bois.
Vous allez près de la source là,
non, enfin je vais. Non, je connais. Enfin non, parce que mes parents ont une maison de campagne à 35 km d'ici. Je ne sais pas, vous avez peut-être été à Saint-Benoît-sur-Loire, non?
Je crois avoir déjà entendu parler.
Il y a Germigny, Saint-Benoît, enfin en principe on le fait visiter. Et nous partons là-bas, parce que mon mari va beaucoup à la pêche. Moi je me promène avec mon fils.
Et qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances d'été ou que ferez-vous pendant les vacances d'été?
L'été dernier nous sommes partis dans les Landes, au bord de la mer bien sûr. Mais là cette année, mon mari a une préférence pour la montagne, moi l'été j'aime bien la mer. Alors, nous partirons. Enfin, ça, je tiens tous les ans, parce que nous partons en vacances.
Oui, oui.
Partons trois semaines à peu près, quoi. Nous avons des mois de vacances. Là.
Et la mère pour les enfants, vous préférez c'est votre préférence à vous
Non, enfin, c'était ma préférence à moi, pour le point de vue santé, pour mon fils qui est assez nerveux, et puis ça lui a pas tellement réussi. Mais enfin, c'était une préférence. Moi, j'aime bien la mer pour les vacances. C'est un peu moi qui décide.
Et si vous aviez 2 heures de temps libre supplémentaire par jour, que feriez-vous de ce temps libre? Ben, supposons que vous arrêtez, par exemple, à... Vous arrêtez de travailler
à 6h30.
Oui, bon, à 4h30, vous avez 2 heures.
Je ferai d'abord une fois par semaine, j'ai des camarades qui sont célibataires qui vont à des cours de gymnastique. Alors là, je ferai 1 heure de gymnastique par semaine. Et puis, mon Dieu, j'en profiterai pour faire peut-être un peu de lèche vitrine ou pour rentrer plus vite chez moi pour être. Pour plus avoir mon fils.
Oui, oui.
En profiter davantage.
Et est-ce que vous avez une voiture?
Oui.
Vous en avez. Et qu'est-ce que vous avez comme voiture?
C'est une R8.
Une R8. Mmh. C'est vous qui avez choisi le modèle? C'est votre
Non, mais écoutez, quand nous nous sommes mariés, mon mari avait une 404, moi une 5000. Alors, je n'aime pas conduire la 404, c'était trop gros. Alors d'abord, nous l'avons vendue, parce que quand nous sommes mariés, nous avons acheté les meubles. C'était une voiture neuve. On avait gardé la 5000, qui était plus économique. Nous avons racheté une 204, mais alors elle ne nous convenait pas. Et enfin, mon mari a surtout pris une R8 parce que c'est un peu pour moi, parce que j'aime pas conduire une grosse voiture. Quoique je conduis beaucoup moins. Parce qu'avant, j'avais travaillé en voiture, maintenant mon mari m'amène, le matin, je vais à pied. Et puis nous avons pris une R8 aussi, vous savez, en France, maintenant, il y a la vignette qui coûte très cher. Alors il vaut mieux avoir une petite voiture, c'est plus économique à tout point de vue.
Et vous en servez tous les jours, votre mari vous en sert tous les jours. Pour aller au travail, puis alors le dimanche.
Dimanche pour aller se promener, on part en vacances évidemment en voiture aussi. Oui, je viens, mon chéri. Vous permettez, je le lève. Il va être sage, j'espère.
Merci.
Mais Eric, tu ne fais pas toucher, hein. Ça l'intéresse, la mécanique.
Et à votre avis, enfin on va passer à des questions un peu différentes maintenant.
Oui.
Qu'est-ce qu'on devrait surtout apprendre aux enfants à l'école? Est-ce que vous avez...
Bien, je n'ai pas tellement d'idées. Je ne me rends pas à l'école, à quel âge? Pas à l'école maternelle, vous voulez parler tout à l'école plus tard?
Non, enfin à l'école plus tard, ou même, même à partir de 6 ans, ou même dès que les enfants vont à l'école... Qu'est-ce qu'on devrait essayer de leur apprendre surtout?
Bon, je crois qu'on devrait surtout leur montrer, quoique ça se fait, je pense maintenant plus, surtout les réalités de la vie. La vie exacte, comment tout se passe dans la vie vraiment et tout. Mais je crois que ça a plus tendance maintenant que déjà de mon temps, je peux dire. Moi, je sais que pour mon fils, j'aimerais comment ça se fait des écoles maternelles bilingues. Ça, j'aimerais que tout jeune, il va aller à l'école l'année prochaine, au mois d'octobre, je voudrais qu'il apprenne justement l'anglais, c'est pas parce que c'est vous êtes là, mais surtout l'anglais, j'aimerais qu'il apprenne. Ce que je vois, j'en ai fait 3 ans, 4 ans d'anglais. Je me débrouillais pas mal. Et puis dès que l'on ne parle plus, on perd énormément. Après, c'est pour ça, j'aimerais, quand ils sont plus jeunes, il y a beaucoup plus d'assimilation.
Beaucoup plus d'assimilation. Et je pense aussi que, s'ils ont, par exemple, à l'âge de 11 ans, 12, 14 ans, s'ils peuvent faire un échange et s'ils peuvent aller dans un pays étranger et s'exprimer tout de suite.
Oui, c'est ça. C'est beaucoup mieux.
Être complètement perdu, avoir quand même une idée, c'est quand même mieux. Et après, s'ils ont des bases, ils peuvent, par exemple, lire ou y aller sans s'inquiéter, par exemple, ceux qui ne vont pas être compris ou ne veulent pas y aller parce qu'il y a la langue qui change. Et qu'est-ce que vous pensez du latin à l'école?
Alors là, je n'en ai jamais fait. Pour moi, je trouve que c'est un peu inutile. Quoique, bien sûr, ça peut apporter beaucoup pour le français, enfin tout au moins pour nous, mais pour la langue française. Mais enfin, je trouve que c'est une langue morte maintenant.
Et dans quelle matière aimeriez-vous que vos enfants soient forts? Des tas.
Il y a les maths qui sont très importants. Il peut se lancer dans beaucoup de choses s'il était doué en maths. Mais s'il n'est pas doué, je trouve que c'est pas la peine de pousser un enfant. Ça,
La rendre malheureuse,
oui.
vous l'avez trouvé.
Et j'aimerais qu'il soit aussi bon en français, parce que là, je m'en aperçois surtout dans mon travail. Les personnes qui ont des difficultés pour le français, c'est une langue assez. Vraiment, avoir des bonnes bases en français, c'est quand même très important. Je crois qu'on se débrouille pas mal pour tout, quoi.
Certainement, oui. Et qu'est-ce qui fait que les enfants réussissent ou ne réussissent pas à l'école?
Des fois, les professeurs, enfin, les classes sont tellement surchargées. Quand un professeur s'intéresse il ne peut pas s'intéresser à tous les enfants, c'est un problème trop. Mais ce qui fait aussi, peut-être aussi son climat familial, si on ne s'occupe pas trop de lui.
Oui, c'est ça,
Et
certainement.
puis, il faut voir aussi si les parents poussent l'enfant, s'ils lui font comprendre que c'est pour son bien qu'il travaille, tout ça, il faut. Dépend tellement de choses.
Mais je crois qu'ils ont diminué le nombre d'enfants maintenant dans une classe en France.
Oui,
Ils ont
enfin,
essayé
ils ont
de.
essayé parce qu'il y a quand même des classes qui sont vraiment surchargées. Mais en France, là, je m'aperçois, enfin, je suis moins dans le coup parce que le petit va partir à l'école, mais j'ai mes petites nièces, par exemple. Je trouve que non, plus ça va, enfin, il y a beaucoup d'heures maintenant pour la gymnastique, elles ont presque une journée entière, elles ont été. Je trouve que. Je sais pas, tous les ans, les professeurs, les instituteurs, là, ces écoles primaires, se plaignent que les programmes ne sont pas finis, mais ils ne font rien pour les faire, pour les finir. Je trouve que plus ça va, moins on donne de temps pour les études, vraiment. Ça, c'est toujours mon avis, mais enfin, je vois.
Et jusqu'à quel âge est-ce qu'il faudrait que les enfants continuent leurs études?
Bon, vous savez, maintenant en France, c'est obligatoire jusqu'à 16 ans l'école. Je trouve que si un enfant n'est pas doué, c'est pas la peine de le pousser.
Du pousser jusqu'à 16 ans ou.
Enfin, on est obligé de toute façon
Oh, il
jusqu'à
est
16
obligé,
ans. C'est
oui.
obligatoire.
Mais enfin, selon vous, est-ce que vous croyez que c'est bien que enfin
À l'école
qu'il va à
jusqu'à 16
l'école
ans.
jusqu'à 16 ans?
Mais c'est-à-dire que, enfin, je suis pas tellement au courant, mais vers 14 ans, déjà, on les oriente. Si l'on voit qu'ils ne sont pas tellement doués pour les études, on les oriente un peu vers le côté manuel. Oh, je trouve quand même jusqu'à 16 ans. Enfin, je trouvais qu'à 14 ans, c'était bien avant. 14 ans, parce qu'après, si on mettait un enfant en apprentissage, il y avait 3 ans, ça faisait 17 ans. Je trouvais 14 ans, c'était bien. 16 ans, à mon avis, c'est un peu trop. Ça, c'est.
Et est-ce que c'est la même chose pour les filles et les garçons?
Oui,
Oui,
c'est obligatoire pour les deux.
oui. Oui, et pour vous, vous diriez que enfin une fille
une fille a peut-être
a
moins.
le droit ou
Ah oui, moi,
devrait
je.
être à
Ah, moi
l'école
je
autant?
trouve que maintenant, oui, avec la vie actuelle, une fille va avoir autant d'instructions, avoir. Moi, si j'avais une fille, elle aurait un métier dans les mains également, parce que maintenant, on n'est plus comme avant, le mariage, c'est pas pour tout le monde, il y en a qui ne veulent pas. Même, non, il faut un métier maintenant.
Oui, bien sûr.
Oh,
Oui,
oui.
oui.
Oh.
Et quelle différence y a-t-il entre les lycées, les CEG et les CES?
Alors là, écoutez, j'étais dans un collège, moi, maintenant qui s'appelle lycée. Enfin, j'étais en commercial. Enfin, je parle, c'est un peu faussé, parce que j'ai quitté l'école, ça fait à 18 ans, et maintenant j'en ai 28, ça fait 10 ans. Alors ça a quand même changé pas mal. Mais j'ai deux jeunes frères, il y en a un qui était dans un CEG. Je trouve que dans les CEG, ils sont plus stricts. Je trouve que, enfin, lui, il avait de très bons professeurs et tout. C'était beaucoup plus tenu que dans un collège ou dans un lycée. Je trouve que
Le suivi est quand
plus
même.
suivi et tout, quand ils sortent, ils ont une très bonne formation. On s'occupe beaucoup plus d'eux que il y a de meilleurs résultats que dans les collèges ou les lycées. Je me suis rendu compte, enfin, quand il faisait ses études, vraiment, c'était bien.
Et est-ce qu'il y a une différence entre les élèves qui vont par exemple au lycée, au CEG, au CS? Est-ce qu'il y a.
Maintenant un peu moins, mais avant ceux qui étaient au lycée, c'était surtout un peu les fils à papa, vous voyez, je sais pas si vous voyez. C'était enfin les jeunes qui allaient à l'école parce que pour passer le temps.
Oui.
C'était ça, enfin, passer le temps. Enfin, ceux qui n'avaient pas vraiment l'obligation, qui savaient que pour eux, travailler n'était pas primordial en finissant leurs études. Tandis qu'avant, dans les collèges, vraiment, ceux qui allaient, c'était parce qu'ils savaient que...
Mmh.
Au collège, c'était souvent, surtout des enfants d'ouvriers, voyez-vous, la différence.
Mmh. Oui.
C'est surtout ça.
Mmh. Et au lycée, c'était les...
Et au lycée, les enfants de cadre, tout ça. Alors, mmh. c'était pas du tout le même tempérament.
Mmh. Mmh. Et est-ce que l'enseignement a beaucoup changé depuis que vous aviez terminé vos études?
Ça, je ne m'en rends pas tellement compte. Hein. Enfin, j'entends bien parler autour de moi, les gens qui ont des enfants. Je crois que ça va pas... Enfin, les professeurs essayent de discuter davantage avec leurs élèves et tout, mais vu le nombre d'élèves qu'ils ont et tout...
C'est toujours... Oui.
C'est assez superficiel comme rapport, je pense.
Oui. Mmh. Et comment est-ce qu'on fait le choix entre l'école publique et l'école libre?
Ah, alors là, en principe, l'école libre, je ne sais pas si c'est, ça doit toujours être payant comme avant. Alors, parce qu'on paye, hein, pour les, enfin, on payait toujours.
Mmh.
Alors, à l'école libre, je ne veux pas être méchant, c'est surtout enfin, les enfants de bourgeois.
Mmh.
Et surtout, Orléans, vous voyez, c'est un pays très, très bourgeois. C'est une ville très bourgeoise. Les gens sont, la majorité sont catholiques, évidemment, et tous les bourgeois, leurs enfants vont à l'école libre.
Ah, ouais.
C'est surtout ça.
Et l'école libre, c'est une école religieuse,
oui,
en général.
Oui, oui, en principe. Alors, il y a des écoles qui sont faites exclusivement par des religieuses, ou certains par des prêtres, mais en même temps, ils ont beaucoup d'institutrices civiles qui sont dedans.
Mmh.
Vous voyez, vous, ici, il y a Saint-Aubert, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est pour les garçons. Il y a un point Sainte-Verte.
Sainte-Verte.
C'est vers les boulevards, enfin là-bas. Bien, dès qu'un élève était mis à la porte du collège ou du lycée, il se retrouvait à Sainte-Verte parce qu'il y avait qu'eux qui ouvraient les bras pour les recevoir. C'est comme ça. On trouvait les camps, quoi.
Oui.
En principe, c'est ça.
Oui. Et vous, personnellement, vous avez le choix à faire?
Je n'ai pas de parti pris, mais mon enfant ira dans une école laïque.
Oui.
Enfin, tout comme moi, vous savez que mon mari, nous avons des... Moi, je suis catholique, pratiquante, mon mari est catholique, mais c'est tout. Enfin,
oui.
Lui, il ne serait pas du tout question que mon fils... Mais j'ai été plus jeune dans une école libre et j'en ai souffert.
Mm.
Enfin, j'en ai souffert parce que j'étais chez une tante et dans cette école, il fallait payer, évidemment. Ma tante payait bien, mais... j'étais jeune, marqué, j'avais que 9 ans. Mais pour les bonnes sœurs... Comme j'étais placée chez... Enfin, j'étais placée... Non, mon père était très malade et ma tante a dû me prendre quelques temps. Bien, il y avait une différence, voyez-vous. On ne s'occupait pas tellement de moi ni rien. Et puis alors, en plus, je ne veux pas faire mon éloge, mais à 9 ans, je savais lire, évidemment, couramment et tout. Alors que dans la classe, mes autres camarades qui avaient 9 ans ne savaient à peine lire. Alors, quand on s'est aperçu que j'arrivais comme ça...
Non,
pendant un an, je n'ai rien fait.
Et qu'est-ce qui vous ferait accepter d'envoyer vos enfants à l'école libre?
Bien, c'est par exemple, j'étais dans une ville où il n'y avait que celle-là,
oui.
mettons. Ou alors si je reconnais vraiment que les maîtres qui enseignent dans cette école sont vraiment bien.
Oui,
sont
vraiment,
là,
et que ce n'est pas, par exemple,
oui.
un refuge pour tous ceux qui sont mis à la porte du lycée.
Ah oui, ah non, non, non.
Oui, enfin, oui, à ce moment-là, c'est vraiment les maîtres.
Il faudrait vraiment que je n'ai que la possibilité de le mettre que là.
Oui.
Autrement, non.
Oui. Et est-ce que vous êtes favorable à la participation des élèves au conseil d'administration des écoles?
Oui, ça peut leur donner une certaine maturité et tout, une façon de s'exprimer, oui, je suis pour, oui.
Et d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'enseignement actuel? Par exemple, quand vous étiez à l'école vous-même, est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous déplaisait et que vous voudriez voir changer?
Enfin, vraiment, nous étions des élèves, mais on ne nous demandait pas c'est notre avis, tout ça, enfin, on nous considérait... Le professeur venait, faisait son cours, vous avez compris, vous n'avez pas compris, il repartait, il ne s'intéressait pas tellement. Enfin, il y avait quand même, si j'avais un professeur d'anglais justement qui était extraordinaire, mais si tous les professeurs avaient été comme elle, dans la classe, je crois que nous étions 30, nous aurions été 30 filles extraordinairement savantes.
Oui.
C'était vraiment un professeur qui avait pris sa tâche vraiment à cœur. Voyez, n'hésitez pas, un cours, une seule n'avait pas compris, n'hésitez pas à sacrifier une heure de cours pour une élève seulement. Mmh. Les autres, eh bien tant pis, nous étions là, mais
oui, oui. Et de toute façon, c'est une révision, je suppose.
Oui, mais c'était... Oui. Ça, elle était vraiment formidable,
oui,
à tout point de vue.
Oui. Et pour revenir à la ville d'Orléans, est-ce que d'après vous, on fait assez pour les habitants d'Orléans?
Pour les habitantes?
Pour les habitants. Orléans.
Bon, vous savez, oui et non, quoi. Enfin, il n'y a pas, enfin, vous voyez, pour point de vue femme, il n'y a pas assez de crèches pour garder les enfants. On est obligé de donner les enfants comme ça aux personnes. Alors il y a un cas qui se pose parce que, en principe, une femme n'a pas le droit de garder un enfant si elle n'est pas déclarée. Parce que, vous voyez, on paye, mais on paye assez cher pour donner son enfant à garder. Alors bien sûr, normalement, il y a des personnes qui dénoncent d'ailleurs des gens qui vont à la mairie, qui disent « Madame Intel garde un enfant alors qu'elle n'est pas déclarée, ceci, cela ». Ça fait des poursuites, enfin je trouve ça c'est des mesquineries de femmes.
Oui.
Mais normalement, de donner une personne pour garder un enfant doit être agréée par la mairie. Mais alors, on verse, vous voyez, moi je donne 30 000 francs par mois pour le garder. Ma sœur, bien sûr, parce que c'est ma sœur, ça se passe entre nous deux.
Oui.
Autrement, je donnerais 30 000 francs à la mairie et ma sœur n'aurait peut-être que 15 000 francs de salaire. La mairie garde le reste. Alors, tout ça, vous savez, parce qu'en France, il y a le salaire unique. Les femmes qui restent au foyer ont une allocation supplémentaire avec les allocations familiales. Alors, c'est pour ça, parce qu'il y a un certain plafond de revenus à respecter. Oui. Alors là, déjà, il faudrait qu'il y ait des crèches, parce qu'il y en a très peu. Il n'y en a qu'une, oui, une. Il y en a une privée, évidemment. Alors, là, c'est vous payez en fonction de vos revenus, alors c'est encore des sommes folles. Ça, pour les femmes, oui, moi, c'est surtout du point de vue crèche. Puis vous voyez, maintenant, depuis la rentrée, les enfants ne vont qu'à l'école le samedi après-midi. C'est très bien, ça a été surtout fait pour la région parisienne parce que les gens s'en vont plus en week-end. Mais en province, les gens s'en vont en week-end quand même, et c'est une minorité. Et même à Paris, c'est une minorité de gens. Alors vous voyez, bon, moi ça ne me pose pas encore trop de problèmes, mais quand il sera plus grand, moi, samedi après-midi, c'est mon jour de détente, j'aime bien aller faire mes courses toute seule.
Oui.
Là, je suis obligée d'emmener mon fils.
Oui.
Ça, c'est depuis le mois d'octobre, ça n'a pas tellement plu à tout le monde.
Ouais.
D'ailleurs, ils avaient fait plusieurs sondages dans plusieurs écoles et les gens étaient vraiment contre, mais enfin, c'était décidé. Touche pas, Eric, ça ne risque rien.
Non. Et nous avons dit « on ». Enfin, je vous ai posé la question « est-ce qu'on fait assez pour les habitants ?»
Rien. Oui.
Et « on », ça représente qui pour vous ?
Mais moi, ça représente le maire et le conseil municipal.
Et à part le maire et le conseil municipal, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui comptent ou qui ont de l'influence un peu?
Bon, moi, je ne... Au conseil municipal, enfin, je l'ai compte rendu sur les journaux et tout, il y a des gens de très bonne volonté qui vraiment veulent améliorer beaucoup de choses. Mais tout est arrêté, une question de crédit, évidemment. Et puis, je crois que c'est le maire ou enfin, il y a d'autres dépenses. Vous voyez, Eric, mets pas ton pied dessus. Il ne faut pas. Là, il y a une chose, il y avait les fleuralies, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y a eu un déficit extraordinaire. Eh bien, c'est nous qui en subissons les conséquences au moyen d'un impôt indirect qui est l'impôt immobilier. Nous payons beaucoup plus cher.
Ouais.
Alors là, je trouve que vraiment... Ça, c'est un peu la faute. Enfin, c'est la faute du maire et de certains dirigeants, là, vraiment.
Il aurait fallu qu'il...
Enfin... Il aurait fallu que ça soit géré beaucoup mieux. Enfin, on ne laisse pas ça à quelques grosses têtes. Gérer ça, faire des invitations à tous les pays étrangers. Les gens sont venus gratuitement, les séjours et tout. Puis là, il y a un beau déficit. Il y a eu une commission de contrôle et tout de nommer. Mais alors, c'est nous qui payons avec les impôts immobiliers. Parce qu'il y a un impôt immobilier qui a été créé sur les gens qui ont des garages. Vous payez non seulement pour la location de votre garage, mais en fin d'année, vous payez l'impôt immobilier pour le garage. Il ne veut pas jouer le monsieur.
Il veut bien, mais il ne peut pas.
Oui.
Et on a beaucoup parlé des événements de mai 1968.
Oui.
Moi, je n'étais pas en France à l'époque. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment... Enfin, m'expliquer ce qui s'est passé?
Oui, remarquez, je vais vous dire, en province, nous nous sommes beaucoup moins aperçus qu'à Paris. Parce que j'ai eu l'occasion de parler avec des gens de Paris. Vraiment, nous, en province, on n'a presque rien ressenti. Bien sûr, moi, j'ai fait la grève quelques jours, comme presque tout le monde. Mais on ne s'est pas rendu compte. Vous voyez, je suis partie faire un stage pour mon travail, là, il y a un mois et demi, et nous étions à Paris, j'ai retrouvé les collègues de Paris, et nous en avons parlé de ces événements. Et justement, enfin, nous en avons parlé sans exagérer. Vraiment, à Paris, ils sentaient qu'ils frôlaient une révolution, alors que nous, en province, non. On se rendait compte que ça n'allait pas bien, mais c'est tout. On n'a pas du tout vu les événements du même œil. Nous
Non, du
n'avons
même
pas
point.
eu les mêmes
Mais, non,
répercussions.
oui. Et à votre avis, comment est-ce qu'on peut expliquer ces événements? Est-ce qu'il y a une explication
C'est pour ces grèves, ben oui, elles y sont, ces explications. Et puis d'ailleurs, en ce moment, c'est pareil, le gouvernement, ça ne veut pas. On paye, enfin, je trouve que nous payons trop d'impôts, que le gouvernement promet un tas de choses qu'il ne tient pas, évidemment. Regardez l'augmentation de la vie, plus ça va, plus tout augmente depuis quelque temps. Et puis alors, les Français, je ne sais pas exactement, la politique, je m'en occupe un peu, mais pas tellement. Tout le monde ne voulait plus du général de Gaulle et prennent Pompidou, alors que Pompidou était le successeur du général de Gaulle. Donc les Français sont-ils logiques? D'ailleurs, ils n'ont jamais été reconnus logiques, les Français. Non, il faut reconnaître, vraiment, c'est illogique ce qu'ils ont fait.
Enfin, ils sont volés du départ de De Gaulle et
Oui,
puis ils se retrouvent maintenant avec Pompidou.
c'est-à-dire que De Gaulle aussi, quand il a fait son référendum, il a posé deux questions en même temps. Voulez-vous que je reste? Et il voulait ces fameuses décentralisations, enfin, tout ça. Alors les gens, beaucoup, ils étaient pour De Gaulle, ils n'étaient pas pour l'autre question. Enfin, ça fait un peu de cafouillage.
Oui, c'était pour l'autre question, il n'était pas
Oui, c'est
pour De
ça.
Gaulle, parce
Alors,
qu'ils
ils ne
ont...
savaient pas juste pourquoi ils votaient. Enfin, beaucoup. Et puis, mais après, au moment des élections, bien sûr, ils se sont dit qu'avec le gaullisme, ça avait bien marché jusque maintenant. Enfin, que ça avait été calme, tout au moins. C'est pour ça qu'ils ont préféré Pompidou. Mais
C'est surtout quelque chose de sûr, quelque
Oui,
chose
c'est
de
ça, parce que oui,
stable.
parce qu'avant, bien sûr, on changeait de gouvernement tous les...
Des
très
15
souvent.
jours, ouais.
Parce que là, depuis que De Gaulle était au pouvoir, puis enfin, les Français oublient beaucoup de choses, que c'est eux qui ont été chercher De Gaulle après pour les événements d'Algérie et tout ce qui s'est passé. Ils ont été chercher, puis après, ils le mettent à la porte. Mais les
Mais...
Français sont-ils logiques? Et puis, il y a aussi une autre génération, ça faisait 10, enfin, je crois 10 ans, on peut dire ça. Alors, il y a beaucoup plus de jeunes qui votaient, et n'ont pas du tout les mêmes tendances politiques, les mêmes réactions.
Non.
Ça fait aussi beaucoup, ça.
Et lorsque vous votez pour un député, qu'est-ce que vous attendez de lui?
Ou bien, ce que j'attends de lui, un député, en principe, devrait bien connaître sa région. Je pense que c'est surtout ça. Alors, c'est pareil, un député, on l'élit en fonction de celui qui est à la tête du gouvernement, le parti auquel il appartient, un tas de choses. C'est ça. Vous voyez, quand même, on ne participe pas assez, nous. On se dit après tout, je vote et tout. Je le fais, évidemment, je donne mon avis. Mais on sait qu'une fois qu'ils sont là-haut, ils font bien ce qu'ils veulent. Hein. Nous, on ne compte pas beaucoup.
Et dans les élections nationales, pourquoi y a-t-il deux tours? Enfin, il y a deux tours, je crois, dans les élections en France.
Pour le président de la République,
Oui,
non? Ou
et
quoi?
pour les députés aussi, il n'y a pas deux
Il y a
tours.
deux tours, oui, parce que bien souvent ils sont en ballottage, ils n'ont pas le nombre de voix exactes qu'ils devraient avoir. Je pense que c'est ça à chaque fois. C'est pour ça que nous.
Et qu'ils font le deuxième tour
Oui,
avec
oui,
moins
oui.
de...
Ah ben c'est-à-dire que non, avec le même nombre, les mêmes gens reviennent voter, c'est parce que au premier tour, le candidat n'a pas le nombre de voix requises, où il est sur la balance avec un autre, alors c'est pour trancher vraiment la deuxième fois. Pour ça, d'ailleurs, au vote, bien souvent, les gens n'y vont pas la première fois. Ils votent que la deuxième fois, parce qu'il faut qu'on y retourne dans 15 jours, alors j'y vais qu'une fois au lieu de deux. Bien souvent, c'est comme ça.
Et comment est-ce qu'on décide si on va de la seconde fois, si on y va deux fois? ce moment-là?
Ah, les gens, oh bien, moi je sais que je vote les deux fois, parce que je trouve que je pars du principe que mes grands-parents se sont assez battus pour les droits de vote de la femme, les droits de la femme surtout. Beaucoup de femmes proclament leurs droits, mais elles ont le droit de vote, elles n'y vont même pas la plupart. Mmh. Alors que les femmes veulent être l'égale de l'homme, alors on le vote. Mmh. Moi, mon avis, c'est ça.
Mais quand vous votez, par exemple, je crois que quand on vote la première fois, on peut voter pour quelqu'un qui ne peut pas se présenter au deuxième tour. Quelque chose, enfin, des personnes ne sont pas éliminées, je crois.
Des candidats?
Oui.
Ah oui, mais oui, sinon pas un certain nombre de voix requis, la première fois, ne peuvent pas se représenter la deuxième fois. C'est ce qui s'est passé pour les élections présidentielles. Il fallait qu'ils aient tant de voix. Alors, il y en a qui ont eu des nombres de voix minables, alors ils n'avaient pas le droit de se représenter.
Mais mettons par exemple qu'on a voté pour une personne qui ne peut pas se présenter au deuxième tour. Oui. Qu'est-ce qu'on fait alors si en général que...
Alors, mais il y a des gens
qu'est-ce que vous feriez par exemple si...
Alors, mais moi, par exemple, si mon candidat ne passait pas la première fois, enfin s'il n'était pas... On ne le représentait pas la seconde fois, je voterais nul. Mais j'irai voter, bien sûr, oui, j'irai, mais je ne mettrai rien dans mon enveloppe.
Ah, bon, d'accord.
Voilà. Oui. Mais j'irai parce que nous avons une carte de vote qui est tamponnée, et j'irai parce que je trouve que c'est mon devoir d'exprimer, et même si je ne vote pour personne, j'exprime quand même mon opinion.
Oui. Et quelle est la différence, pensez-vous, entre la droite et la gauche?
Bon, ben, la droite, c'est les... les catholiques, vraiment, enfin, les catholiques. Les ultra-catholiques, même. À gauche, sûr, ça a une tendance vers le communisme, mais justement, des fois, je discute avec des gens qui se disent communistes, mais ils ne voient pas du tout le communisme comme il est en Russie, admettons. Mmh. Beaucoup de gens parlent du communisme, mais ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est. Oui. Mais moi, j'évite de trop en parler parce que, enfin, je me suis renseignée, j'ai lu, c'est pas mal. Mais les gens ne se rendent pas compte. En Russie, quand même, les gens ne sont... Enfin, je pense qu'ils ne sont pas tellement heureux. Ils peuvent être heureux dans la mesure où ils n'ont jamais rien connu d'autre que ce régime. Donc, ça peut aller. Mais nous, Français, qui vivons, parce qu'on est très heureux, hein, on se plaint toujours, mais on est très heureux, vivre un régime communiste, non, ça irait pas. Oui, il y a une petite ville à côté, Fleury-les-Aubrais, c'est vraiment communiste. Le maire est communiste, les adjoints et tout. Mais pour les élections présidentielles, c'est M. Pompidou qui est sorti en tête dans cette commune, alors qu'il y avait un futur, enfin, un candidat qui était communiste qui se présentait. Maintenant, c'est Pompidou qui est sorti, alors qu'il était gaulliste. Alors, vous voyez, dans une commune qui est 99% enfin, communiste.
Et qui, à la fin, alors, pour, voyez, pour le président de la République, vote...
Oui, vote gaulliste. Alors, vous voyez, on se rend compte que...
Ça change.
Ben oui, ça change. C'est pour ça que je vous dis, les Français ne savent vraiment pas ce qu'ils veulent. Ils se disent communistes, ils vont voter gaulliste.
Oui.
C'est vraiment bizarre le tempérament français. Je suis quand même française, hein, je dis pas. Non, mais quand on réfléchit un peu, on ne sait pas ce qu'ils veulent. On se demande, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont peur de ce qui se... Moi, je suis pareil, remarquez, avoir un candidat communiste, moi, j'aurais très peur. Je me demanderais qu'est-ce qui va se passer.
Et est-ce que les différences entre les classes sociales sont très marquées à Orléans?
À Orléans, oui. Oui, assez, quand même, oui.
Et comment...
Mais vous voyez, ça se voit quand les enfants vont déjà à l'école, entre enfants ouvriers et enfants bourgeois, il n'y a pas de relation, pour ainsi dire. Vous voyez, le jeudi, camarade bourgeois n'inviterait pas un de ses petits camarades qui est un simple ouvrier. Après, ça se voit un peu plus tard, quand ils sortent et qu'ils commencent à sortir, il y a plusieurs cafés, c'est des bandes de jeunes qui se réunissent. Alors vous avez les ouvriers qui ont certains de leurs cafés, qui ont certains de leurs amusements, tous les petits bourgeois qui viennent là, savent pas trop quoi faire, mais qui viennent en voiture, tout ça, c'est marqué.
Et à quoi est-ce qu'on reconnaît un bourgeois ou un ouvrier ou...
Chut, Eric, ne marche pas. Oh bien, remarquez, au point de vue vestimentaire, on ne peut pas tellement dire, parce que maintenant même les fils d'ouvriers se... Mais à leur façon de se tenir, des fois, les enfants de bourgeois se tiennent moins bien que les enfants d'ouvriers, en principe, parce qu'ils s'imaginent que tout leur est dû.
Oui.
Certaines sont mal élevées. C'est souvent ça. C'est vrai.
Oui.
Ils sont beaucoup moins corrects avec les jeunes filles quand on sort en surprise partie, tout ça. C'est vrai, ça, on se rend compte surtout là.
Oui, bien sûr. Et un étranger veut venir en France pour apprendre le français. Dans quelle région est-ce qu'il doit aller à peu près quoi?
Alors, s'il veut apprendre enfin le français, la langue française, vous voyez, c'est ici, c'est surtout en Touraine que l'on y retourne. C'est à Tours que l'on parle le mieux le français. Sans accent ni rien, et la région ici encore, dans le Val-de-Loire.
Oui, oui. Alors, ce serait plutôt Tours.
C'est Tours surtout.
Pour la ville, enfin,
oui. Oui, oui, mais c'est à Tours même que l'on dit que c'est le plus bel accent de France. C'est en tête Tours. Et d'ailleurs, même pour parler, au point de vue.
Oui.
Tournure de phrase, non merci. Tournure de phrase et tout.
C'est
à Tours, et puis même dans le Val-de-Loire que l'on parle assez bien.
Et pourquoi c'est surtout cet accent qu'ils ont, la grammaire ne joue pas un rôle.
Non, l'accent. Je sais pas, on parle quand même beaucoup mieux par ici. J'ai quand même voyagé pas mal. Dans le Nord, par exemple, les gens parlent très mal. Enfin, très mal, bien sûr, parce qu'ils ont une espèce de patois à eux.
Oui.
Ils ont vraiment des tournures de phrases et tout.
Oui.
Des mots même. Là, je vois, quand j'étais en stage, il y avait une dame de Tourcoing. Bien, il a fallu que je m'habitue parce qu'elle avait des tournures de phrases et des mots, mais des fois, je me demandais carrément, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est amusant.
Oui. Est-ce qu'il y a des endroits qu'il devrait éviter, enfin, à l'étranger qui vient ou...
Ah, pour...
Vous diriez que Tourcoing,
c'est pareil.
Alors, ou le Nord.
Oui, ou à Paris, les gens parlent trop argot. Pareil, si un étranger veut apprendre vraiment le parler français, à Paris, vous voyez, en dernier lieu. Pour apprendre l'argot, là, c'est pour parfaire son éducation.
Oui. Et pour bien apprendre le français, quel genre devrait-il fréquenter? Est-ce qu'il y a des gens en particulier qu'il devrait fréquenter et d'autres qu'il devrait éviter, par exemple?
Oh non, je trouve que dans le fond, il faut côtoyer toutes les classes, c'est aussi bien.
Et voir comment les gens...
Oui, comment les gens vivent et tout. Oui, aussi, toutes les... Pour marquer, ça doit se retrouver dans chaque pays quand même. Ça, chaque classe doit vivre quand même d'une façon un peu à elle.
Et quelles sont, d'après vous, les difficultés de la langue française pour l'étranger?
Bien, il y a beaucoup de mots. Il y a trop de mots. Il y a beaucoup de mots, bien sûr, beaucoup de synonymes, beaucoup d'homonymes. Vous avez un mot qui veut dire plusieurs choses. Alors, c'est, pour les étrangers, ça, je crois que c'est une grosse difficulté. Déjà, pour les Français, c'est une... Parce que moi, je sais que je suis, même dans mon travail, je vois des camarades, vous voyez, ceux qui sont arrêtés à l'école primaire à 14 ans, qui ont fait quelques petites études commerciales, vous savez, des cours accélérés, point de vue français, c'est vraiment déplorable. Ça, dans une conversation, vous dites, c'est un mot un peu... Non, ils sont perdus, ils ne savent pas ce que ça veut dire. L'orthographe est très difficile aussi.
Oui.
Les gens font beaucoup de fautes d'orthographe.
Et vous m'avez dit qu'on parle bien Orléans, mais est-ce que vous trouvez que tout le monde parle bien?
Oh non, enfin tout le monde... Si quand même, la majorité, la grande majorité des gens s'expriment assez bien ici.
Et est-ce qu'il y a des gens qui ne parlent pas bien à part les étrangers?
À part les étrangers? Oui, bien sûr. C'est parce que je vois, même si dans moi, enfin, au bureau, je vois toujours, il y a des gens, il y en a certains pourtant qui, le monsieur là, qui est né à 5 km d'ici, toute sa vie et tout, parle mal. Enfin, parle mal, pas bien. Et il y a beaucoup, ici, enfin, il y a une chose, moi, je sais qu'au début, je faisais rire tous mes collègues parce que je prononce chaque syllabe. Je dis un renseignement, alors qu'ici on dit un renseignement. Ils avalent beaucoup de mots. Moi, ça vient peut-être parce que j'ai vécu dans le Midi assez longtemps et que là on prononce tout. Mais je vois, même depuis que je suis là, pour moi, je.
Oui.
Des fois, ça me choque. Les mots, vous voyez, même les présentateurs à la télévision, combien de fois je prendrais bien, si j'avais le téléphone, leur dire de parler comme il faut parce que ils avalent la moitié des mots.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Et est-ce qu'à votre avis, la langue de français est une langue difficile?
Oui, c'est difficile.
Et en quoi?
Bien, déjà pour
Surtout
sa
celle.
grammaire qui est très difficile. Voilà.
La grammaire surtout, et
Oui, la
ce dont vous
grammaire
avez
est.
parlé tout à l'heure, les homonymes,
Oui, les
même pour les
homonymes.
Français, c'est.
Oh oui, même pour les Français. Oh oui, parce que même la grammaire, vous voyez, tous ces verbes et tous les gens, bien souvent, emploient très mal les verbes. Vous voyez, il y a le parfait du subjonctif, je ne sais pas si vous l'avez déjà employé. Et quand vous employez, des fois, on est bien obligé d'employer ce parfait du subjonctif. Il y a certaines personnes qui ouvrent des yeux comme ça, mais qu'est-ce qu'elle peut bien dire là? Qu'est-ce qu'elle veut dire?
Oui.
C'est vrai.
Et quelqu'un est de passage à Orléans, il vous demande ce qu'il pourrait faire pendant son séjour. Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire?
Et faire, vous savez. De faire pour, ce, enfin, pour passer le temps, évidemment, par visiter quelques. Je ne vois pas trop ce qu'il y aurait à voir. Enfin, si, il y a l'hôtel de ville qui est très joli, l'intérieur, je ne sais pas si vous l'avez visité.
Non, je
Non.
pense encore, mais je dois y aller,
Oui,
je
c'est
vais
très
y aller.
joli. Et beaucoup d'Ordanais ne le connaissent pas. Moi, je l'ai connu, bien sûr, quand j'étais à l'école, on nous emmenait le visiter. Il y a quelques églises, enfin, les églises par elles-mêmes ne sont pas tellement belles, mais quelques-unes ont. Par exemple, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais la cathédrale, il y a deux églises en dessous. Il y a eu des fouilles de fait et tout, parce que, bien sûr, vu les événements qu'il y a eu, point de vue physique et tout, il y a un tas de choses comme ça, mais qui ne sont pas tellement connues. Mais autrement, point de vue amusement ou n'importe, alors là, Orléans, il y a, par les cinémas. Quelques boîtes autour pour aller danser, mais non, il n'y a rien.
Et quelqu'un frappe à la porte de votre appartement ou de
Oui.
cette pièce, qu'est-ce que vous lui dites?
Enfin, il rentre ou je vais lui ouvrir? Non, enfin, je vais lui ouvrir.
Oh, mettons que enfin, la porte est fermée,
Oui.
que quelqu'un frappe à la porte, qu'est-ce que vous lui dites?
Bien, je vais ouvrir. Enfin, des fois, je dis entrer, mais c'est très rare, je suis très peureuse. Je vais ouvrir et demander qu'est-ce que c'est.
Et vous invitez quelqu'un à prendre quelque chose à la maison, qu'est-ce que vous lui dites pour l'inviter?
Bien, je serais contente que vous veniez me voir. Viens quand tu veux, venez quand vous voulez.
Et comment est-ce qu'on fait une omelette? Pourriez-vous m'expliquer comment on
Une
fait
omelette?
une omelette?
Je prends un saladier assez grand, je casse mes œufs, je mets de l'eau un peu, du sel, du poivre et je remue. Je remue assez et puis je mets ma poêle avec un peu d'huile à chauffer. Je verse mon omelette, enfin mes œufs battus dedans.
Et
Voilà. Ne la faites pas de la même façon, vous. Si.
c'est une question.
Oui, pour voir les réactions des gens peut-être. Non, c'est ça, c'est du coq à l'âne là.
Oh, non, ça change tout souvent les questions. C'est
Oui, on a
un genre différent.
Oui, bien sûr.
Ouais, ouais. Et est-ce
Vous
que
êtes
vous...
peut-être mal, non, dans ce fauteuil,
Non,
ça va?
ça va,
Oui,
ça va,
ça va.
ça va bien, merci. Est-ce que vous faites des mots croisés, madame?
Très rarement. J'aimerais, mais je ne suis pas assez forte. J'en fais, enfin, quand je suis malade, surtout.
Et lesquels
Oh, ben, sur les journaux,
sur les
ce que je
journaux.
trouve. Oui.
Le journal d'Orléans
Le journal d'Orléans, de temps en temps, oui, c'est La République, c'est ce journal-là.
Et pensez-vous qu'il soit utile que les enfants apprennent le latin à l'école?
Non, ça,
Non.
non, oui.
Et pourquoi non en général?
Oh non, parce que je trouve que plus tard, il ne pourra pas, enfin, pour s'en servir, je ne vois pas tellement dans à quoi ça pourrait vraiment lui servir plus tard.
Et que pensez-vous du franglais?
Oh, ben c'est amusant, mais des fois c'est un peu énervant.
Est-ce que vous
C'est
êtes,
des.
en général, est-ce que vous êtes pour, contre, indifférent?
Je suis contre.
Contre.
Ah, je suis contre.
Et pourquoi contre?
Oh, ben, parce que je trouve que c'est ridicule de vouloir On est français, mais on parle français, ou alors on parle entièrement anglais, mais tous ces mots. Non.
Un mélange.
Oui, non, non.
Ça veut dire rien.
Non, ça me. Mm.
Et y a-t-il des différences, selon vous, dans la façon de parler français entre les gens appartenant à des milieux sociaux différents?
Oui, oui, quand même.
Et ces différences sont-elles très grandes, grandes, ou est-ce
elles
qu'il y a
sont
peu
grandes.
De
différences? Elles sont grandes quand même. Oui.
Et en quoi est-ce qu'elles consistent en général, surtout?
Oh bien, tournure de phrases très précieuses, comme l'on dit, pour dire un petit mot simple. Ces gens en robe, on se demande où ils veulent en venir.
Et selon vous, les gens parlent-ils de mieux en mieux, de plus en plus mal, sans changement?
Je me rends pas tellement compte. Mais je ne pense pas qu'ils parlent de mieux en mieux, ça je ne pense pas. Non. Je pense pas, c'est sans changement ou plus mal, mais c'est pas mieux. Hein.
Mieux du tout. Et de quoi est-ce que cela vient?
Et justement, peut-être ce côtoiement avec pas mal d'étrangers maintenant, et puis parce qu'on donne peut-être moins d'importance aux Français aussi dans les écoles, ou peut-être que ça, peut-être un peu ça aussi. Mmh.
Oui. Et parmi vos connaissances, quelle est la personne qui parle le mieux le français?
Je peux dire que ceux qui parlent quand même le mieux, ce sont mes camarades qui ont un certain niveau d'études. Mm-hmm. C'est ça, ceux qui ont été comme moi, il y en a qui ont fait plus d'études que moi, ces gens-là, oui, ça va, parlent bien. Mm-hmm. Ceux qui ont un niveau d'études inférieur parlent quand même moins bien. Mm-hmm. C'est assez flagrant, ça, oui. Mm-hmm.
Mais il n'y a pas une personne qui se présente à vous, que vous diriez vraiment, c'est cette personne-là qui parle?
Non, non, je vois, non.
Mais quand même une personne qui a un niveau d'instruction assez élevé. Une personne qui parle très bien, il faut...
Oui, une personne, plus une personne à une situation assez élevée, oui, elle parle quand même nettement mieux que...
Et y a-t-il en France un organisme qui décide si un mot, une expression fait partie du bon français?
Oui, il y a nos académiciens qui se réunissent. D'ailleurs, il n'y a pas bien longtemps, mais j'ai entendu ça à 7h le matin. Je ne sais plus quel mot d'ailleurs. Il y a deux mots dont la définition a été changée dans le dictionnaire. Hein? Mais je ne me souviens plus. Je sais que ça m'avait frappé. Je ne sais plus, je reverrai dans un journal quelconque.
Oui. Et est-ce que vous trouvez que c'est utile, très utile ou sans utilité?
Ah si, je trouve que c'est utile.
C'est utile?
Ah oui, oui, oui.
Pourquoi?
Oh bien sûr, parce que parfois on a... au bout d'un certain temps, des fois on donne une tournure ou enfin une explication d'un mot qui devient fausse. Comme au moment de ces Spoutnik et tout, il y a plusieurs mots, Eric.
Ça va, ça va.
Il y a plusieurs mots qui avaient été employés par les gens à tort et à travers, et justement, l'Académie a remis en place que certains mots, par exemple, je crois, à l'unir, n'a pas du tout été reconnu pour être mis dans le dictionnaire.
S'il vous plaît,
À l'unir.
À l'unir,
oui. Ah, oui. Justement, mais c'était très important. Enfin, moi, je trouve que c'est très important, un mot comme ça.
Oui, oui. Et est-ce qu'il faudrait obliger les journalistes, les speakers de la télévision et de la radio à employer un bon français?
À employer que...
Un bon français.
Ah oui, moi je trouve que oui, ce serait vraiment utile.
Et c'est très important ou peu important?
Non, c'est très important.
Très important. Oui. Qu'il... Oui. Oui. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison?
Bien, en principe, ils sont écoutés par des milliers, sinon des millions de gens, et un mot dit de travers peut avoir des répercussions. D'ailleurs, à la télévision, il y a un journal qui paraît, et il y a beaucoup de gens qui avaient écrit justement pour se plaindre que certains speakers employaient des mots, faisaient des liaisons mal à propos, comme l'on dit ici, pour faire voir que c'est vraiment dit, mal dit. Et... Oui. Beaucoup de gens se scandalisent quand même quand ils entendent mal parler.
Oui. Et aujourd'hui, à votre avis, est-ce que la langue française Est-elle enseignée aussi bien, mieux ou moins bien que du temps où vous étiez vous-même à l'école?
Mais alors là, je ne peux pas vous répondre parce que je ne vois pas. Je ne sais pas comment elle est. Comment cela est enseigné maintenant.
Vous ne pouvez pas me dire d'après ce que vous avez entendu, par exemple, à vos camarades ou...
Non, là, vraiment, je ne peux pas. Non, je peux. Non, j'ai aucune idée.
Et dans quelle matière étiez-vous le plus fort à l'école?
Bien français.
En français. Et habituellement, est-ce que vous avez quelque chose pour écrire sur vous, un instrument et un bloc ou un carnet?
Avec dans mon sac à main, non? J'ai toujours un petit agenda, mais enfin, et un stylo.
Un stylo?
Ah oui,
un stylo.
Un stylo à encre.
À encre.
Oui. J'ai un agenda et j'ai toujours quelques cartes de visite, surtout.
Oui, les cartes de visite. Et est-ce que vous possédez un stylo à encre? C'est un stylo à plume.
Stylo à plume, oui.
Et vous en possédez donc, à la suite de quelles circonstances est-ce que vous avez possédé?
Le stylo?
Oui.
Eh bien, je l'ai
pour la première fois.
Avant, j'écrivais toujours avec des stylos B et j'ai demandé ce stylo. Vous savez, quand une jeune fille en France a 25 ans et qu'elle n'est pas mariée, en fait, la Sainte-Catherine.
Ah ouais.
J'ai fêté la Sainte-Catherine et comme cadeau, mais les collègues de bureau font toujours un cadeau, j'avais demandé un stylo.
Ah ouais.
Voilà. Parce que j'avais... Je trouve qu'écrire un stylo à encre, cela fait beaucoup plus correct qu'un stylo B.
Oui, oui. Et vous saviez quel âge, alors, la première fois que vous en avez eu?
Ah bien, oh ben non, mon premier stylo, j'ai eu quand j'allais au collège. Mon premier stylo, j'avais 14 ans, premier stylo à encre. C'est ça, premier à encre, c'était
pour rentrer
au collège, parce qu'il n'y avait plus d'encrier, bien sûr, comme à l'école primaire.
Et quand est-ce que vous avez écrit pour la dernière fois?
Alors, écrit quel genre d'écriture?
Oh, n'importe quoi.
N'importe quoi.
Le marché.
Eh bien, je l'ai écrite avant que vous veniez. Il fallait que j'achète des Kleenex, des mouchoirs en papier. J'ai fait un petit mot, il est là. Et biscuits pour mon fils pour demain.
C'était votre liste de marché?
Oui. J'en ai fait une ce matin et la dernière, je l'ai dit avant que vous veniez.
Et avez-vous besoin d'écrire pour votre travail?
Ah oui,
oui.
J'écris.
Pour quel genre de choses?
Eh bien, parce que pour demander aux chômeurs les renseignements dont j'ai besoin, nous avons un bloc, parce qu'avant, c'était une collègue qui écrivait à la machine, qui tapait à la machine, mais ça n'en allait pas assez vite, alors chacun, nous avons un bloc et nous écrivons. Et peut-être que pour les gens, une aide personnelle, parce qu'il y a, il faut écrire, pas trop mal écrire. Peut-être que pour les gens, c'est une meilleure influence qu'une aide tapée à la machine, je ne sais pas.
Et est-il important, selon vous, d'avoir une belle écriture?
Oh oui, je crois quand même.
Très important, important ou peu important?
Important.
Important. Pourquoi?
Enfin, important évidemment parce que, enfin voyez-vous, je fais de la graphologie. Enfin, j'en fais beaucoup moins maintenant, mais je crois à la graphologie. J'y attache une grande importance. Alors, une belle écriture, évidemment, c'est agréable à voir, mais des fois, vous avez quelqu'un qui n'a pas une belle écriture, mais son écriture, ça, puisque l'écriture reflète l'âme et la personnalité de la personne, enfin, je préfère voir quand quelqu'un, voir quelque chose de bien écrit, mais... pour moi, puisque l'écriture a une signification, je ne m'arrête pas à voir si quelqu'un...
Ça marche? Oui.
C'est bien.
Oui, ça y est.
C'est en marche.
Bon, enfin, on ne va pas tout reprendre, mais... je crois que...
Nous étions aux lettres, non?
Oui, nous en étions aux lettres. Vous avez dit que... c'est très important d'avoir de l'orthographe parce que... Ça fait un mauvais effet.
Oui, c'est ça.
Il y a des fautes. Et vous seriez favorable à une réforme de l'orthographe?
Oui.
Et votre raison, je ne m'en souviens plus.
Mais je dis, je vous avais cité le mot orthographe,
oui.
Admettons.
Oui. Que...
beaucoup de gens même font une faute orthographe, ils l'écrivent phonétiquement et bien sûr il y a une belle faute orthographe la plupart du temps.
Et c'est vous qui écrivez les lettres aux amis communs, à la famille de votre mari et à votre famille. Et c'est vous qui, enfin votre mari et vous faites les feuilles d'impôt ensemble,
oui.
Mais c'est votre mari qui rédige la feuille.
Oui, c'est ça.
Et c'est vous qui remplissez les feuilles de sécurité sociale, de maladie et les autres.
Oui, c'est ça.
Et parce que vous avez quand même pris une habitude.
Oui, c'est surtout une question d'habitude.
Oui, oui. Et pour l'orthographe, c'est vous qui possédez la meilleure orthographe. La plus belle écriture, c'est votre mari.
Oui.
Vous qui parlez le mieux, le meilleur français et qui écrivez le meilleur.
Voilà.
Et vous écrivez 25 lettres par jour
pour mon travail.
Pour votre travail et 2 ou 3 lettres par mois pour
oui,
travail.
C'est ça. Oui.
Bon, c'est parce que. Là, je vais dire à la personne qui va écouter la bande, c'est parce que on n'a pas fait attention, on a parlé après et on s'est rendu compte. On s'est rendu compte que 5 minutes après l'arrêt de la bande, la bande avait en effet arrêté. On en était aux lettres et je vous ai posé la question si, est-ce que vous conservez les lettres personnelles?
Ah oui, alors non, je les détruis. En principe, j'y réponds presque immédiatement et je les détruis tout de suite.
Oui, et vous ne les conservez jamais?
Non, jamais.
Jamais.
D'ailleurs, c'était un point avec mon mari, il n'est pas d'accord. Ah. Lui, il est trop conservateur et moi, pas du tout. Mais qu'est-ce que je suis?
Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Comment s'appelle-t-il?
Dit mouton. C'est mon petit mouton. Oh, non, non. Oh. Tiens, va le promener là, ma biche.
Pardon, on va essayer de jouer un peu.
Attends, viens, tiens, là.
Et votre mari est... aimerait bien les conserver.
Enfin, lui, pour lui, il conserverait, oui. Il les conserverait.
Mais pour vous...
Moi, non.
Non. Et quand vous écrivez à des amis, est-ce que vous faites un brouillon?
Non, en principe, j'écris directement.
Et vous faites est-ce que vous faites attention aux fautes d'orthographe?
Oui, enfin, en écrivant. Je ne relis pas toujours mes lettres, mais en principe je les relis, mais je fais attention à l'orthographe en rédigeant
tout de suite. Et vous vous relisez quelquefois?
Oui, mais pas toujours.
Pas toujours. Et avec quoi écrivez-vous à vos amis?
Un stylo encre.
Un stylo encre.
Un stylo encre. Attention, Eric, tu verras après.
Et quel type de papier utilisez-vous?
Alors, pour des amis filles, amis intimes, j'ai du papier bleu ciel, les enveloppes assorties. Et pour les lettres administratives, papier blanc, enveloppe blanche. Tout à l'heure, Eric. Attends, tout à l'heure.
Quand vous écrivez, vous mettez des lignes derrière?
Non, c'est du papier blanc.
Uni, je ne mets rien. Et quand vous devez écrire? Vous devez passer? Ça va? Ça va?
Ah, il faut toujours qu'il passe là où il ne faut pas.
Ça va? Je vais monter là-dessus? Oh, ça y est,
l'oreille. Je vais la recoudre, bien là, je vais être obligée de le
faire. Aïe, aïe.
Oh là là.
Oh. Et alors, qu'est-ce qu'il a eu là? C'est une oreille. Moi, je ne crois pas que c'est grave.
Ça va se faire. Oui, c'est ça.
Ça va aller. Et quand vous devez écrire, si vous deviez au professeur à l'école de votre enfant, est-ce que vous feriez la même chose? Pas de brouillon?
Non, je ne pense pas que je ferais de brouillon.
Non. Et vous feriez attention aux fautes d'orthographe?
Oui. Je ferais plus attention peut-être à mes tournures, mes tournures de phrases et l'orthographe, évidemment.
Oui. Et avec quel instrument?
Oh, j'écrirai avec mon stylo encre.
Stylo encre. Et papier?
Papier blanc.
Blanc, uni.
Papier blanc uni, toujours.
Pas avec les
lignes. Non, sans ligne, ni rien. C'est le papier blanc uni. Oh, Iri, vous marchez les feuilles.
Non, c'est pas.
C'est rien, ça.
Et pour une lettre officielle, vous feriez un brouillon ou...
Oui, j'arriverai peut-être en... Oui, je ferai peut-être un brouillon quand même. Mm-hmm.
Et vous feriez attention aux fautes d'orthographe.
Bien sûr. Oui.
Et vous écriviez, vous aviez avec. Vous écririez.
Oui, toujours avec mon stylo encre. Oui.
Et papier blanc uni.
Papier blanc uni. Mm-hmm.
Et y a-t-il des choses qui vous agacent dans la façon de parler de votre mari?
Oui, non, je suis en train de chercher. C'est amusant votre question. C'est dommage que mon mari ne soit pas là. Non.
Non.
Il parle. Mon mari parle assez bien. Mm-hmm. Il parle bien même.
Et y a-t-il des choses qui agacent votre mari dans la façon dont vous parlez-vous?
Vous voyez, comme je vous disais au début, je dis renseignement, alors ça l'énerve un peu des fois. Au début, je croyais que je le faisais exprès. Maintenant, depuis que nous vivons ensemble, il voit bien que c'est naturel chez moi.
Oui. Et lui arrive-t-il de vous reprendre, enfin, et de vous dire... Oh.
Mmh. Oui. Des fois, quand dans le feu d'une discussion, l'autre fois, il n'y a pas longtemps, il m'est arrivé de dire des chevals. Je parlais très vite, alors il m'a dit, et il m'a fait remarquer très gentiment, mais ce je parle très vite des fois, je fais un peu attention, et dans le feu de l'action, mais enfin, c'est pas... Mmh. Mmh. Moi, je n'ose pas le reprendre. Des fois, je n'ose pas, je lui dis rien.
Et... Alors, si quelqu'un reprend quelqu'un, c'est votre mari qui vous reprend,
oui, oui.
Qui est plutôt oui. que vous qui oui, reprenez votre. Et y a-t-il des choses. Il y a une question, y a-t-il des choses qui vous agacent dans la façon de parler de vos enfants?
Mais... Oh bien, pour l'instant, il y a qu'une chose, je ne sais pas si vous avez remarqué un peu. Oui, entrez. Ah, nous ne lui parlons pas bébé, on ne lui dit pas le dada, on lui parle normalement. Oui, viens, maman, c'est ma fille. Viens.
Non,
c'est enregistré, tu sais.
Ah, bonjour, madame. Bonjour, on va m'enregistrer.
Oui.
La voiture, on aura. Je m'excuse, hein, je vais vous
dire.
La voiture, Bernard, il était allé chercher que maintenant.
Oui.
Il est revenu, il n'était pas prêt.
Oui. Mais t'inquiète pas, de toute façon, Michel sera pas là avant 5h30.
Je te mets ça.
Oui.
Alors, ça marche. Bonjour, toi. Je ne voulais pas monter, j'y sens. Peut-être en train de.
Oui. Mais tu me le mets dans la
salle d'eau. Mais ça va pas être trop.
Oh non, ça va. Mets-le dans la salle d'eau. Ah, Perry, il va y aller aussi.
Il a branché comme il a pas.
Oui, merci. Ah ben, ça c'est.
Et. Vous ne lui parlez pas un bébé
Non, pas du tout. Il parle normalement et il comprend tout. Hein. Pour ça, Sylvie ne parle pas vite.
Ah ouais, il parle. Il commence à parler.
Oui, il commence à dire quelques mots, mais. Pas grand chose.
Tu vas faire joujou parce que mamie elle va partir, elle va venir te chercher après.
Tout à l'heure. Viens.
Il en a fait des balades. Tu restes pas avec maman?
Attends, viens, viens Eric, viens manger le gâteau que tu te
fais.
Bon,
bah
si tu veux.
Je m'habille.
Oui, bah tu Bernard, il ramènera.
Oui, bien, Bernard.
Bien, toi.
Au revoir.
Au revoir. Bon, bah oui, tu as qu'elle remette.
Tu veux manger tout?
Oui, oui, oui.
Non mais parce que enfin si on parle bébé c'est ma cousine comme je vous dis elle a enfin c'est ma cousine c'est pas ma sœur enfin et il ne lui parle pas bébé parce que son mari est en retard de s'il lui parle bébé il reste
et puis puis pourquoi changer tout à coup nos habitudes de parler. Non, je trouve que ça fait vraiment
rire. Il y a un mot, on dit par les bébés, on dit aussi baragouiner.
Baragouiner aussi, ça aussi.
Enfin, j'ai entendu le mot, je ne sais pas si c'est argot.
Oui,
français,
aussi, non, c'est argot, baragouiner. Ça s'emploie quand un enfant commence à parler, on dit qu'est-ce qu'il baragouine. Et surtout, ça se dit aussi pour les étrangers.
Ah bon.
Qu'est-ce qu'il peut. Baragouine, on ne comprend rien, c'est surtout ça aussi.
Oui, oui. Et. Il y a des questions sur la façon de parler des enfants. Vous arrive-t-il de les reprendre? Est-ce que maintenant, si...
Oui, si c'est-à-dire que quand il parlera vraiment, nous le reprendrons dès qu'il parlera mal, quoi.
Oui, oui. Et pour quel genre de choses
Oui, comme par exemple, j'ai mes petites nièces, je me permets de les reprendre parce que c'est normal, c'est la famille. Vous voyez, au lieu de dire « je vais m'asseoir », elle dit « je vais m'assire ». Alors je lui dis « non », elle dit « je m'assois ». Ou alors, vous voyez, elle disait « hier pour demain » ou comme ça. Alors, mais enfin, ça c'est un peu difficile à leur faire comprendre la notion « demain, après-demain, aujourd'hui ». Mais enfin, pour le « je dis je m'assois », leur dire comme il faut, etc. Mmh.
Et y a-t-il des mots que vous interdirez? C'est ça,
que vous interdirez? Oui, vous interdirez. Est-ce qu'on peut vraiment interdire quelque chose à un enfant? Par exemple, les mots grossiers, je peux lui interdire, mais il le dira derrière mon dos.
Oui. Oui, c'est ça.
Pour dire qu'interdire quelque chose.
Et vos parents, faisaient-ils attention à la façon dont vous parliez?
Mes parents parlent. Ils ont toujours bien parlé devant nous, quoi. Enfin. Ça va aussi, enfin, c'est pour ça que nous ne nous parlons pas trop mal dans la famille,
oui,
évidemment,
oui, bien
les
sûr,
parents
oui.
toujours bien parlé.
Et il a arrivé de vous reprendre?
Oui, quand j'étais plus jeune, oui. Mm-hmm.
Pour qui est-ce qui vous reprenait le plus souvent en
général? C'est-à-dire que mon père était assez longtemps absent de la maison parce qu'il était très malade, alors c'était plus ma mère.
Mm-hmm. Et pour quel genre de choses surtout?
Bon, bien, quand j'étais très jeune, ça devait être pour des tournures de phrases, ou n'importe, c'était surtout pour ça.
Oui. Et prenait-elle des sanctions, quelquefois si
non. Non, non, non.
Et y a-t-il chez vous un dictionnaire?
Oui.
Et une encyclopédie?
Non, il n'y en a pas.
Et je pourrais avoir le nom du dictionnaire, s'il vous plaît?
C'est le dictionnaire Larousse.
Larousse. Mmh. Et où est-ce que vous l'avez?
Il est là, si vous voulez. Enfin, en bas, là, on j'ouvre, oui. Mais enfin, il est avec mon papier à lettres, etc.
Oui. Et depuis quand l'avez-vous?
Bien, je l'ai eu à l'occasion de mon certificat d'études. Jusqu'ici, enfin, je ne sais pas, ici, quand on passe... maintenant, je ne sais pas si ça se fait encore, mais dans les écoles primaires, quand on passait son certificat d'études avec succès, c'est la ville d'Orléans qui offrait un dictionnaire Larousse à chaque candidat.
Mm-hmm. C'était un cadeau, alors?
C'est un cadeau, oui.
Oui, de la ville.
C'est un cadeau de la ville.
Et qui s'en sert le plus souvent?
Oh bien... aussi bien mon mari que moi, parce que nous avons un jeu qui s'appelle un diamino, ce sont des petits cubes de bois, et dessus il y a les lettres, toutes les lettres de l'alphabet en plusieurs exemplaires, et il faut faire, ce jeu consiste à assembler ces petits carrés et faire des mots avec. Alors nous jouons assez souvent l'hiver, là pendant les vacances d'ailleurs c'était notre marotte, et nous n'avions pas notre dictionnaire et nous étions embêtés. Parce que bien souvent, l'un mettait des fois des noms et... Alors d'ailleurs, Marie, je les avais relevés ces mots, parce que la plupart du temps, c'est moi qui les avais utilisés. Je les avais relevés quand nous sommes revenus, nous avons regardé dans le dictionnaire.
Oui, oui. Et vous vous en servez combien de fois par mois en général?
Par mois, je ne sais pas, alors en moyenne, on peut mettre une dizaine de fois, parce qu'il y a des fois, on s'en sert très. Mmh. Parce que même des fois, nous entendons un mot à la radio, ou en lisant, nous voyons un mot... automatiquement, nous le reprenons. Mm-hmm. Nous en servons assez souvent.
Et vous vous souvenez quand vous l'avez regardé pour la dernière fois?
Oui, j'ai cherché un mot. Je ne sais plus. C'est la semaine dernière que j'ai regardé.
Mm-hmm. Et pour quel genre de choses y cherchez-vous le plus souvent?
Oh bien, des fois, la signification d'un mot que j'entends. Quelquefois pour l'orthographe, mais plus rarement.
Mm-hmm. Et possédez-vous un livre sur l'art de parler ou l'art d'écrire,
non.
Les difficultés de la langue française?
Non.
Et est-ce que vous trouvez que ce serait utile de lire un livre comme ça?
peut-être, enfin, je sais que mon mari, la dernière fois, m'en avait demandé hein, si j'avais un livre, quand, du temps que je faisais mes études, sur l'art de rédiger des lettres. Pour lui, je dirais que ça serait, pour lui, là, non, il aimerait bien en avoir un. Mmh. Mmh. Je crois que ça peut être utile.
Oui, oui. Oui. Moi, je peux éteindre, enfin, fermer le...
Oui.
Le métaux, maintenant.